Sud Radio, service compris, 12h30, 14h, Véronique Jacquier.
Service compris, l'émission qui se propose de vous trouver des solutions pour vous aider dans votre vie quotidienne. Alors là, service compris se propose aussi de répondre à vos questions, hein, parce qu'on n'a toujours pas des solutions, et surtout pas des solutions toutes faites, ni express. Hein, c'est pas tout à fait l'ADN de cette émission. Alors comme tous les mercredis, notre entrée santé, c'est le professeur Boyan Christophorov qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour professeur.
Bonjour Véronique.
Vous êtes gastro-entérologue, mais j'ai l'habitude de dire que vous avez réponse à tout, parce que vous êtes ancien chef interniste à l'hôpital Cochin, alors ça veut dire que vous êtes capable de décrypter toutes les maladies rares, tout ce qu'on n'a pas l'habitude de voir souvent, donc vous avez une sacrée expérience. Hein. Aujourd'hui, on va parler de ces addictions médicamenteuses qui sont de plus en plus courantes, mais alors sous une forme, là encore malheureusement, de plus en plus prégnante. Hein. Ces mineurs qui utilisent des médicaments délivrés sans ordonnance pour en faire des cocktails aux effets dévastateurs, parfois mortels. Hein. Ils prennent des médicaments comme on prendrait de la drogue, ils prennent notamment de la codéine, on va mettre un coup de projecteur particulier sur la codéine, et il y a notamment deux adolescents qui sont morts récemment d'une overdose de codéine, donc c'est quand même extrêmement grave. Alors professeur, la codéine, qu'est-ce que c'est ?
La codéine, c'est un dérivé de l'opium, c'est une cousine de la morphine et de l'héroïne, elle est de la famille de ces médicaments qui sont utilisés depuis très longtemps en médecine.
Oui, mais donc c'est normal qu'il y ait une forme d'accoutumance ?
Comme dans tous les opiacés.
Comme dans tous les opiacés.
Il y a une dépendance qui s'installe.
Voilà, la codéine dérivée de l'opium, donc symboliquement on peut avoir l'image d'épinal de l'opium et de dire que c'est un mini-opium, c'est ça ?
Tout à fait, c'est une partie de l'opium.
C'est une partie de l'opium. Et comme la morphine et l'héroïne, la codéine est addictive, c'est
oui,
ça ?
Oui, elle est addictive.
Comme les drogues classiques.
Tout à fait.
Mais ça, on l'a toujours su ?
Oui, bien sûr.
On l'a toujours su, d'accord. Sûr. Donc se pose quand même la question de la vente de ce médicament, la codéine, sous forme de ce qu'on appelle...
C'est-à-dire que c'est le seul opiacé qui est facilement accessible. Donc les gens y vont. Vous parliez d'adolescents, mais je vous rappelle que Prince, le célèbre chanteur, est mort de la codéine, que le promoteur de ce sirop que prennent les jeunes est mort aussi, après avoir vanté son produit dans les raps, il en est mort.
De quel sirop parle-t-on ?
Du Purple Drink.
Ah, oh là, mais vous êtes super branché, alors qu'est-ce que le Purple Drink ?
Je suis président de la Société d'addictologie francophone.
C'est vrai, j'ai oublié de vous présenter comme ça, professeur. Oui, c'est vrai. Donc vous êtes vraiment très au fait de ces questions. Donc le Purple Drunk, là aussi, effet dévastateur sur les jeunes, et le chanteur qui en faisait la promo, on est mort.
Et on est mort, oui. C'est un mélange, c'est a été trouvé empiriquement, de limonade, d'eau gazeuse, de codéine et d'un antihistaminique qui s'appelle la prométhasine, qui est très connu, c'est ce qu'on appelle, c'est le fénerlan.
Et alors les jeunes, pourquoi se tournent-ils vers ces médicaments ? Est-ce que c'est parce que justement les drogues classiques sont inaccessibles financièrement ? Comment vous l'expliquez ?
Donc vous savez, les jeunes, quand ils vont dans une fête, ils veulent se mettre dans une situation agréable, ils veulent être bien, et ils prennent souvent quelque chose, presque toujours. Alors le plus souvent c'est l'alcool, et on voit des abus épouvantables. Quelquefois sont des substances mystérieuses, on leur donne une pilule pour se trouver excité, agréable. Et quelquefois c'est la codéine.
Voilà, mais les ravages de la codéine, c'est il y a un effet euphorisant dans la codéine, outre l'effet addictif.
Comme tous ces produits, c'est euphorisant au début, et puis si vous devenez addict, ben à ce moment-là c'est un besoin qui nécessite d'être calmé, même sans donner de sensations agréables.
Mmh. Professeur Boyan Christophorov, vous qui êtes le président de la Société d'addictologie francophone, est-ce que ce phénomène est nouveau, c'est-à-dire ce type d'addiction à la codéine ?
Absolument pas.
Ah, d'accord.
Absolument pas. Les toxicomanes habituels, les toxicomanes à l'héroïne, quand ils ne se font pas substituer, car je vous rappelle que le bon traitement, c'est la substitution par la méthadone, par la buprénorphine. Eh bien, lorsqu'ils n'ont pas ça, et qu'ils n'ont pas de drogue, ils vont dans les pharmacies et puis s'achètent des packs de codéine.
D'accord, donc pour les drogués, c'est vieux comme le monde.
Oui, tout à fait.
L'accès
tout
à la codéine, comme ça, évidemment, en se pourvoyant en pharmacie. Mais est-ce qu'il y a des profils types, puisque là, on parle des jeunes gens, hein, qui sont particulièrement sensibles à se shooter, même si l'expression est un peu forte, à la codéine. Est-ce qu'il y a des profils types de jeune qui tombe dans l'addiction à la codéine.
Vous savez comment on tombe dans la drogue, c'est une très vieille histoire. D'abord, les jeunes aiment bien faire des choses qui sont interdites. Moi, quand j'étais gamin, on allait derrière la palissade, on fumait des cigarettes. Alors, c'était le summum de la
transgression.
Bon, ils ont toujours envie de ça. Il y a le bien-être que cela donne et puis il y a l'imitation, ils font tous ça.
Ils font tout ça, d'accord. Et comment expliquer que la vente de médicaments à la codéine sans ordonnance soit possible avec ce que vous nous racontez, professeur ?
Parce que la codéine, jusque-là, était peu consommée. Elle était consommée pour calmer la toux, mais les pneumologues déconseillent d'utiliser, parce que la toux a une fonction naturelle, elle vide les bronches. Et puis, pour calmer la douleur, c'est un calmant de la douleur et souvent... En France, il est associé au paracétamol.
Oui, le codoliprane, c'est ça, hein,
oui,
c'est ça,
okay, c'est ce médicament-là. Il y a mille spécialités qui associent le paracétamol et la codéine.
Et vous, à titre personnel, vous êtes pour interdire le libre accès à la codéine, justement, fort de ce que vous nous racontez?
Qu'il faudrait le faire. Je pense qu'il faut le mettre sur la liste des médicaments qui nécessitent une ordonnance, ce qu'on appelle sécurisée, une ordonnance identifiée, parce que bon, les gens peuvent avoir besoin de cela, mais ce n'est pas un médicament indispensable. Il y a d'autres médicaments qui calment la toux, il y a d'autres médicaments qui calment la douleur, donc ce n'est pas vital.
J'ai vu en préparant cette émission, d'ailleurs, qu'il y avait certains pharmaciens qui refusaient maintenant de vendre.
Oui, ils refusent de vendre, mais c'est toujours embêtant parce que normalement, un commerçant doit vendre la marchandise qui est sur son étalage. Alors, quand un pharmacien voit arriver un gamin qui lui demande des doses de codéine énormes, bah, il essaye de ne pas lui vendre.
Oui, bien sûr. Surtout quand le gamin lui dit « c'est pour ma mère qui est malade », de plus en plus de pharmaciens ont quand même la puce à l'oreille et se disent « toi mon coco, tu me roules dans la farine
oui. ».
Hein. On aimerait bien entendre un pharmacien, tiens, hein, qui a peut-être des histoires à nous raconter.
C'est difficile pour eux.
Oui, c'est très difficile pour eux, évidemment. Puis en plus, il y a une prise de responsabilité. Imaginons d'autres gamins qui fassent des surdoses de codéine. Alors, on a envie de vous entendre, vous les parents. Vous êtes inquiets, vous vous dites, mais comment c'est possible ça que des gamins fassent des surdoses de codéine? Surtout qu'en plus, évidemment, ça n'a pas d'odeur, la codéine. Donc, quand on est parent, on ne s'imagine pas que son gamin puisse évidemment se shooter à la codéine, professeur.
Oui.
Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent alerter là, les auditeurs de Sud Radio quand on a un enfant qui serait tenté de toucher à ça?
Non, il n'y a rien de spécifique. Lorsque les gens vont dans des soirées, bon, ils se droguent une fois et puis ils reviennent. S'ils se droguent fréquemment, leur comportement va changer, leur rendement scolaire va s'effondrer, il y aura des choses qui vont
Mais quand on prend de la codéine comme ça à forte dose, on a des palpitations,
pas
on a quelque chose...
Pas du tout. Ce que ça donne, ça vous calme donc la douleur, ça vous endort un peu, ça vous constipe d'une façon colossale. Et puis voilà,
c'est tout.
Mais à très forte dose, ça arrête la respiration, ça déprime la respiration et c'est comme ça qu'on obtient les overdoses.
D'accord. Y a-t-il d'autres addictions médicamenteuses sur lesquelles vous voulez mettre un coup de projecteur, professeur ?
Oh, il y en a un certain nombre. Il y a un certain nombre de somnifères que régulièrement les commissions ou interdisent ou rendent obligatoirement prescriptibles par voie d'ordonnance qu'on dit sécurisée, qui identifie le médecin, le nombre de boîtes et le patient avec son adresse. Et ça va limiter la consommation.
Bon, allez, on accueille les questions des auditeurs de Sud Radio. Service compris. Isabelle, bienvenue. C'est à vous. Vous êtes avec le professeur Boyan Christophorov.
Bonjour Véronique, bonjour docteur.
Bonjour Isabelle.
Alors, moi j'ai eu une occlusion intestinale et on m'a prescrit un antalgique à base de paracétamol et de codéine. Donc en cas de douleur et à respecter la posologie avant de le prendre. Sauf qu'avec la douleur qui me paralyse, par moment je suis obligée d'en prendre 5 à 6 fois par jour et je me demandais s'il y avait un risque d'addiction.
Je ne crois pas qu'il y ait de risque de dépendance de la manière dont vous le dites, mais il n'est pas normal d'être obligé de prendre 5 ou 6 fois par jour ce médicament. Il faut que vous en parliez à votre médecin. Il y a peut-être une explication à ces douleurs et d'autres traitements.
Alors qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme explication? Oui.
Oh, ça c'est de la médecine. On dit déshabillez-vous, on va regarder.
Ah oui, d'accord. Oui, Isabelle?
Oui, c'est parce que justement, c'est moi qui avais demandé par rapport aux douleurs et j'avais subi une opération. Donc après l'occlusion, j'avais mes cicatrices et ça me lance, mais vraiment des douleurs atroces. Et c'est pour ça que justement, pour calmer la douleur, j'en prends bien plus que normalement je devrais.
Mais
si j'en prends 3 fois par jour, ça ne me donne aucun effet.
Non, non, mais ça doit vous constiper. Et puis je crois que c'est pas normal, il faut que vous en fassiez part à votre médecin, il faut trouver une solution. C'est un traitement palliatif de la douleur, ça ne guérit pas la cause.
Oui. Isabelle, il faut retourner voir votre médecin, c'est pas normal de souffrir comme ça.
D'accord.
Bon, on vous souhaite beaucoup de courage en tout cas. Merci pour votre appel sur Sud
Merci
Radio dans Service Compris. Allez, vite, le 0826 300 300. Toutes vos questions sur les addictions médicamenteuses, sur l'usage de la codéine. Vous êtes parents, vous inquiétez, ou alors vous vous dites, mais moi je suis un peu perclus de douleur, j'ai tendance à prendre du codéoliprane comme ça, très facilement. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bon pour moi? Évidemment, tout est possible. Allez, vous avez la chance d'avoir le professeur Boyan Christophorov. Vous en profitez. Le 0826 300 300, notre page Facebook Service Compris, faut que ça bouge, et vous participez sur sudradio.fr.
Sud Radio Service Compris, 12h30, 14h, Véronique Jacquier.
Bienvenue si vous nous rejoignez. Alerte à la codéine avec des adolescents décédés par overdose à cause de ce médicament. On en profite pour mettre un coup de projecteur non seulement sur les dangers de la codéine, mais aussi sur toutes les addictions médicamenteuses. Vous avez le professeur Boyan Christophorov, ainsi son service compris jusqu'à 14h, président de la Société d'addictologie francophone, mais aussi gastro-entérologue et ancien chef interniste à l'hôpital Cochin. Alors professeur, on accueille Célestine qui a envie évidemment de vous poser une question. C'est à vous Célestine. Célestine via le 0826 300 300. Je rappelle qu'il y a notre page Facebook aussi. Hein. Service compris, il faut que ça bouge. Bonjour Célestine.
Bonjour professeur. J'ai un petit conseil à vous demander, moi, parce que voilà, ça fait 6 mois que j'ai un nouveau travail avec des horaires décalés. Je commence à 4h du matin, voilà, dans une grande surface. Et du coup, qui dit 4h du matin, dit se coucher tôt. Et voilà, et pour j'arrivais pas au début à me coucher tôt, donc j'ai pris à m'endormir tôt et j'ai pris l'habitude de prendre du Toplexil qui me claque complètement et me permet de m'endormir. Et voilà, pendant longtemps j'en ai pris tous les soirs et j'ai essayé certains soirs d'arrêter d'en prendre, mais j'arrivais pas à m'endormir et j'ai l'impression d'être rentrée un peu dans ce cercle vicieux où je suis devenue en fait addict à ce sirop qui me claque tôt le soir quand j'en prends, et je voulais savoir si j'aimerais bien arrêter. Je voulais savoir s'il y avait des alternatives, ce que je pouvais faire, parce que je me sens un peu quand même addict à ce sirop.
Oui, c'est une.
C'est quoi le Toplexil, professeur?
C'est un sirop pour la toux.
Ah bon, tout simplement.
C'est un sirop pour la toux. Il y a des médicaments. Je ne sais pas s'il y a de la codéine dedans d'ailleurs, mais il y a des produits équivalents.
Oui.
Tous les sirops pour la toux ont à peu près le même effet, c'est-à-dire qu'ils calment la toux, mais ils sont également sédatifs, ils sont calmants, et alors on peut, par extension, mais ce n'est pas l'indication habituelle, s'en servir pour s'endormir.
Mais c'était pour ça que vous vous en serviez, Célestine, pour vous aider
non,
à vous endormir?
En fait, oui, parce que on m'en avait parlé, c'est quelqu'un qui m'avait dit, si t'as du mal à dormir, prends une fois du Toplexil qui connaissait ce deuxième effet. Et du coup, j'ai essayé, puis j'ai réessayé parce que j'ai vu que ça marchait. Je réessaye tous les soirs, en fait. Et je sais que c'est très mauvais. Et quand j'en prends pas, j'arrive clairement pas à m'endormir. Donc j'aimerais bien trouver une autre solution.
Non,
c'est pas
affreusement mauvais, c'est pas une bonne indication. Je crois qu'il faut que vous en parliez à votre médecin qui va vous aider. Il y a des somnifères, purement somnifères, qui sont uniquement faits pour vous aider à vous endormir. Et il y a aussi des manières de décrocher d'un usage médicamenteux pour s'endormir. Vos médecins vous le diront. En général, on vous demande de réduire la dose régulièrement, progressivement, et puis de trouver un rythme. Et vous allez trouver un rythme spontané au bout d'un certain temps. Si vous levez tôt, vous vous couchez tôt, et voilà.
C'est quand même impressionnant que Célestine ait le sentiment d'être addict comme ça, c'est bon pour la toux, pour s'endormir. Enfin, moi,
vous
ça m'épate. Hein.
On en a parlé aussi bien pour le tabac. Il y a une addiction, il y a un aspect psychologique, il y a un aspect physique. Il y a l'aspect physique qui vous fait tomber de sommeil, effectivement, mais il y a aussi l'aspect psychologique. Et on se dit, je n'ai pas pris mon comprimé ou mon sirop et je ne vais pas pouvoir m'endormir. Et donc, on est inquiet.
Mm-hmm.
Mais il faut que quelqu'un l'aide, ça, on y arrive facilement.
Oui. Célestine, il y a ce réflexe-là, effectivement, de prendre, entre guillemets, son petit sirop, là.
Clairement, c'est devenu, après le lavage de dents, c'est ça. Hein,
c'est un rituel. J'ai des patients qui sont arrivés à mettre un demi-comprimé de somnifère sur leur table de nuit, à ne pas le prendre, en disant, si j'en ai besoin, je le prendrai. Et ça leur sert en quelque sorte de talisman ou de réassurance contre l'anxiété de ne pas s'endormir.
D'accord. Bon, merci pour votre intervention, Célestine. On accueille Émilie. Oui, merci Célestine.
Au revoir.
Émilie, c'est à vous, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, je vous appelle, c'est à peu près pour ce même genre de cas-là. En fait, je me suis blessée il y a quelques temps et j'ai des douleurs qui reviennent constamment. Du coup, je prends beaucoup de codéine dès que j'ai mal. Et c'est, ma question toute bête, c'est comment arrêter, parce que j'ai souvent mal. Quand même.
Oui, les douleurs après blessure sont un des modes d'entrée dans la dépendance. Quand j'étais tout jeune, j'ai encore connu les blessés de la guerre 14 qui avaient des cicatrices, des amputations, des choses douloureuses et qui étaient devenus morphinomanes.
Oui,
et ils ne pouvaient pas s'en décrocher. Si vous êtes à ce point dépendante, je crois que c'est la même chose. Il faut que vous alliez voir votre médecin et il faut en discuter. Il faut trouver une stratégie à la fois de réduction et de remplacement, parce que les douleurs ont d'autres traitements que la codéine.
Mais qu'est-ce qu'il existe justement comme stratégie de réduction ou de remplacement?
Il faut d'abord faire le bilan, d'essayer de voir s'il y a une cause précise aux douleurs, pourquoi elle a mal. Quelquefois, le traitement de la cause n'est pas un traitement antidouleur, c'est le traitement de la maladie ou du trouble qui cause la douleur. Et ensuite, calmer la douleur par d'autres méthodes que la codéine.
Oui, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir?
Mais il y en a d'autres, il y a beaucoup d'autres médicaments, je ne vais pas vous faire la pub, mais il y en a.
Oui, il y en a, mais c'est vrai qu'on a... Non, mais moi, je...
Ici, il y a le tramadol, il y a des tas de façons de...
Mais moi, je me mets à la place d'Émilie, c'est vrai qu'elle a la codéine, ça marche rapidement, c'est efficace, ça calme la douleur. Elle va peut-être être obligée de passer par des...
Oui, c'est vrai, il faut aussi la toxicomanie chez elle, c'est un très grand mot, elle est un peu dépendante, c'est pas une junkie. Oui.
Mais comment sait-on Oui, allez-y, Émilie. Allez-y.
Non, ça me rassure. Non, mais parce que c'est ça. Des fois, j'en viens à me demander si la douleur n'est pas psychologique par rapport à ça. Parce que j'ai quand même mal, mais il n'y a pas d'opération à faire. J'ai fait des radios, j'ai rien de grave, j'ai une douleur.
Il y a un double aspect à ce type de douleur. Il y a une espèce de souvenir de la douleur qui est pérenne, qui est un peu psychologique, et puis il y a quelquefois des causes locales. Et donc les deux se combinent, c'est pour ça qu'il faut agir sur les deux tableaux.
Mais est-ce que la solution, alors moi je vais me faire l'avocat du diable, mais c'est de remplacer la codéine forcément par un autre médicament. Est-ce que dans le cas d'Émilie, on arrive à s'en sortir quand même?
Évidemment qu'on arrive à s'en sortir. Bien sûr, simplement il faut un peu de patience, il faut que quelqu'un l'aide. En général, c'est le médecin, le généraliste a parfaitement l'habitude, et puis la revoir régulièrement, lui faire diminuer ses doses, trouver un autre traitement. Non, c'est pas, vous savez, quand c'est pas un toxicomane avec les bras percés et puis le sida.
Vous en avez vu d'autres, vous, professeur. Émilie, vous allez aller voir votre médecin généraliste, du coup?
Oui, promis.
Vous lui aviez déjà parlé, en fait, de cette forme de dépendance à la codéine ou pas?
Pas vraiment. Je lui ai dit que j'avais mal, donc il me prescrivait ça, pardon. Et non, je lui avais dit que j'avais mal. On a fait des radios, mais après, non, je n'ai pas vraiment parlé de cette dépendance. Mais là, je commence fortement à ressentir quand même. Enfin, je me pose des questions si c'est bon pour moi de toujours continuer ces médicaments et d'avoir la sensation de devoir les prendre.
Oui, et cette émission sert à ça d'ailleurs, à faire en sorte que les auditeurs se posent des questions, hein, professeur, c'est-à-dire, mais voilà, j'écoute le professeur Boyan Christophorov sur Sud Radio, est-ce que je suis dépendant ou pas quand je prends tant de médicaments, que ce soit de la codéine ou autre chose, hein. Bon, on vous souhaite beaucoup de courage, Émilie, en tout cas, pour vous en sortir, hein, avec le professeur Boyan Christophorov, et on accueille Piotr qui a fait le 0826 300 300. J'en profite pour vous rappeler qu'il y a aussi notre page Facebook Service Compris, faut que ça bouge, et vous vous dépêchez d'appeler si vous voulez parler des addictions médicamenteuses que vous subissez, parce qu'on vit toujours ça, hein, comme quelque chose que l'on subit. Vous appelez vraiment tout de suite, hein, puisque dans 8 minutes, cette émission touchera déjà à sa fin. Alors, on perd pas de temps, on vous écoute, Piotr.
Oui, bonjour, moi je vous appelle parce que depuis 4 ans, donc date de passage de mon bac, je pense être devenu un petit peu addict, ce qu'on appelle les fameuses pilules de la mémoire, qui sont des petites pilules que je prends en fait avant chaque examen, et qui décuple mes capacités de mémoire et de résistance, on va dire, au bachotage. Et le gros problème qui se pose, c'est que c'est d'une efficacité redoutable. tellement que désormais, bah, je prends même plus le risque, entre guillemets, de m'en passer, quoi. Donc, je me demandais déjà si ça
mais
pouvait être...
Mais dites-moi, est-ce que vous savez ce qu'il y a dans ces pilules?
J'ai la petite notice, ouais. Après, malheureusement, j'ai pas tout le jargon scientifique.
Non, lisez-moi le nom comme la dénomination chimique.
Je l'ai pas sous la main. Le nom du produit, en l'occurrence, c'est le Synapsil.
Écoutez, il faudrait lire le titre, mais la plupart de ces médicaments, ou ce sont des excitants de la famille des amphétamines, ou bien ce sont des placebos. N'oubliez pas que l'effet placebo, ça fait 60% dans certaines situations, et les gens pensent que c'est en se badigeonnant de venin de crapaud ou en mangeant des limaces cueillies le jour de la pleine lune qu'on est bien. C'est pas sûr que vous ayez réellement besoin de ça pour la mémoire. Il faut voir ce que c'est.
Oui, mais là, dans le cas de Pietre, comme il a le sentiment quand même de subir une dépendance, il n'y a peut-être pas que du placebo.
Ben, peut-être quand même que si. Parce que si c'est un médicament qui est remboursé par la Sécurité sociale, ça prouve qu'il est efficace. Moi, je ne connais pas de médicament qui améliore la mémoire. Je ne connais pas. Donc, alors, il y a des excitants, qui sont les amphétamines, qui vous empêchent de dormir et qui vous donnent l'impression d'une grande capacité. Et puis, le reste, c'est des placebos, hein. Vous achetez ça, c'est des vitamines, c'est des, tout ce que vous voulez. Des,
oui, alors là, Pietre, vous avez l'impression que vous êtes dans quelle catégorie?
Excusez-moi, j'ai pas trop suivi dans quelle catégorie par rapport à quoi vous pensez que...
Le médicament que vous prenez est remboursé par la Sécurité sociale ou pas?
Ah non, moi je le commande sur Internet.
Ah oui, là, c'est des médicaments bidons.
Donc ce sont des médicaments dangereux bidons. Ce que vous faites, hein, Pietre. Il faut qu'on fasse un petit coup de projecteur là-dessus,
oui,
professeur.
Oui, bien sûr.
Quand vous dites médicaments bidons, c'est-à-dire forcément on commande sur Internet, alerte rouge.
Alors, oui, bien sûr. D'abord, il y a des médicaments qui sont des faux médicaments. On vous vend, par exemple, l'une des choses qui sont très vendues, c'est le Viagra. Le Viagra, ben, on vend du faux Viagra.
D'accord.
Elle est prouvée.
Bon, bah, c'est
et
bon
puis,
à savoir
alors,
pour tous les auditeurs de Sud Radio.
Quelquefois, il peut y avoir des produits dangereux, et la plupart du temps, c'est des produits inefficaces.
Pietre, pourquoi vous commandez comme ça sur Internet ce médicament? Vous avez conscience que peut-être vous prenez n'importe quoi et que ça sert à rien?
Demandez à un médecin.
Ça m'a été recommandé, moi, par mon cousin qui a 6 ou 7 ans de plus que moi, qui a fait de très longues études et qui m'a vanté ce produit, qui m'a vanté le site sur lequel il se le fournissait. Donc, j'ai passé le pas. Et comme je dis, le problème, en fait, c'est que ça porte ses fruits parce que j'ai déjà essayé de m'en passer. Et alors, certes, peut-être qu'il y a l'effet placebo, mais moi, je vois le résultat. C'est que quand je prends pas mes petites pilules, entre guillemets, magiques, mes notes sont moins bonnes, quoi.
Écoutez, il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce médicament pour pouvoir vous répondre.
Et en fait, Pietre, soit vous retrouvez la boîte rapidement, soit vous allez voir votre généraliste pour en parler aussi.
Oui, puis montrez-lui la boîte, il saura tout de suite ce que c'est.
Oui, il saura tout de suite et il vous dira peut-être d'arrêter, hein, directement. Et vous vivrez aussi bien, sans doute.
Oui, peut-être. Non, mais c'est vrai que le problème, c'est que j'ai peur de qu'ils me prennent pour un drogué ou je sais pas quoi, parce que je
ne
prends pas
cette
boîte.
Non,
soyez rassurés.
Oui, vraiment.
Ça vous fait sourire, professeur.
Oui.
Bon, professeur Boyan Christophorov, qui est le président de la Société française d'addictologie. Donc, il a l'habitude quand même d'en voir des vertes et des pas mûres, comme on dit. Allez, Pietre, soyez rassurés, mais ne faites pas le fou en achetant n'importe quoi sur Internet. Hein, et vous allez voir votre médecin généraliste. C'est vraiment le meilleur des services compris que l'on puisse vous donner dans cette émission sur Sud Radio. Alors, il y a une question de Pascal sur notre page Facebook, service compris, faut que ça bouge. Bonjour professeur, j'ai eu une addiction à de l'aspirine UPSA effervescente et à cause de cette prise de médicament, je n'ai plus assez de plaquettes rouges dans le sang, que puis-je faire? C'est possible ça? Alors expliquez-nous.
Non, d'abord il n'y a pas d'addiction à l'aspirine. Ça, alors je vous l'assure, c'est absolument impossible. Maintenant, si vous prenez de l'aspirine, ce ne diminue pas le nombre des plaquettes. Ça réduit la capacité des plaquettes à faire des caillots de sang. C'est pour ça qu'on donne de l'aspirine de façon chronique ou des gens qui sont menacés d'un accident vasculaire cérébral ou d'un accident cardiaque. Ça diminue un peu la capacité à coaguler. C'est pas un anticoagulant vrai, c'est un anti-agrégant. Mais en tout cas, ça n'entraîne pas de pénurie de plaquettes. Il faudrait savoir quel est le chiffre exact, parce que sinon, quelquefois, les gens ont un chiffre qui est un peu plus bas que la moyenne. Ils pensent qu'il y a un manque de plaquettes, mais où il n'y a pas de vrai manque de plaquettes et il s'en fait pas, ou bien il y a un nombre de plaquettes anormalement bas et à ce moment-là il faut consulter un hématologue.
Oui, un hématologue.
Du sang. Et c'est à vérifier. Il faudrait savoir s'il saigne aussi de façon anormale. Mais il faut surtout savoir le chiffre des plaquettes.
Voilà. Donc message pour Pascal. Il faut que vous connaissiez le chiffre de vos plaquettes. Le mieux eût été qu'elle fasse le 0826 300 300, évidemment, pour être avec nous, mais peut-être qu'elle ne peut pas, peut-être qu'elle est en train de travailler et qu'elle nous écoute en douce, évidemment, depuis son bureau. Donc, mais en revanche, donc là, elle dit une bêtise, Pascal, quand elle dit « je n'ai plus assez de plaquettes rouges dans le sang ».
Non, d'abord, il n'y a pas de plaquettes rouges, c'est des plaquettes tout court. Si vraiment il y a un manque de plaquettes, il faut consulter un hématologue. Parce que quand l'aspirine est arrêtée, du jour au lendemain, les plaquettes sont normales. Donc,
D'accord. Mais est-ce que d'ailleurs, c'est une bonne chose de prendre de l'aspirine dans son cas ?
Ah, j'en sais rien. Je ne sais pas quel est son âge, quelles sont les maladies, ou l'absence de maladies, quelle est la cause.
Mais en tout cas, pas d'addiction à l'aspirine. Non, c'est le message qu'on fait passer aux auditeurs de Sud Radio. Pas d'addiction à l'aspirine, mais en revanche, alerte rouge, addiction à la codéine. On fait très très attention. Merci beaucoup, professeur Boyan Christophorov, d'être venu ainsi éclairer les auditeurs de Sud Radio. Professeur Boyan Christophorov, président de la Société d'addictologie francophone, c'est pas rien. Et évidemment, ancien interniste à l'hôpital Cochin et gastro-entérologue. On vous retrouve très très prochainement, évidemment, pour une belle émission. Dans un instant, c'est Brigitte Lahaye. À demain, passez une belle après-midi avec Sud Radio, bien sûr.